Bonjour à tous. Nous allons naviguer avec l'apôtre Paul ce matin. Pour situer le contexte de ce dernier voyage maritime qu'il va accomplir, je lis avec vous d'abord le contexte à la fin du chapitre 26 du livre des Actes des Apôtres. L'apôtre Paul rend témoignage de sa foi, explique pourquoi et comment il a été arrêté et qu'il a été traduit devant d'abord le Sanhédrin et puis les autorités romaines. Et il termine ce parcours en racontant à nouveau sa conversion et aussi tout ce que le peuple juif de l'époque lui a fait subir et finalement son désir et sa décision d'être devant l'empereur lui-même pour plaider sa cause. Je lis Acte 26 au verset 22. J'ai été protégé par Dieu, c'est donc ce que Paul déclare devant Festus et Agrippa. J'ai été protégé par Dieu jusqu'à ce jour, et je suis donc encore là pour apporter mon témoignage aux gens d'humble condition comme aux personnages importants. Et ce que je déclare, ce n'est rien d'autre que les événements dont les prophètes et Moïse ont annoncé l'accomplissement, c'est-à-dire que le Christ souffrirait, qu'il serait le premier à ressusciter des morts pour annoncer la lumière du salut, non seulement au peuple juif, mais aussi aux païens. Paul en était là, dans sa défense, quand Festus s'écria, « Tu es fou, Paul ! Ton grand savoir te fait perdre la raison. » « Non, Excellence, répondit Paul, je ne suis pas fou. Tout ce que je dis est vrai et sensé. D'ailleurs, le roi Agrippa est au courant de ces faits. Et c'est pour cela que je peux lui en parler avec assurance. Aucun de ces événements ne lui échappe, j'en suis sûr, car ce n'est pas en secret qu'ils se sont produits. » « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? » ?»« Oui, je le sais. Tu y crois. » Alors Agrippa dit à Paul, « Encore un peu, et tu vas me persuader que tu as fait de moi un chrétien. » « Qu'il s'en faille de peu ou de beaucoup, reprit l'apôtre Paul, « je prie Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent, en cet instant, vous deveniez comme je suis moi-même, à l'exception de ces chaînes. » Là-dessus, le roi se leva, et le gouverneur, Bérénice, ainsi que tous ceux qui avaient siégé avec eux l'imitèrent. En se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, il aurait pu être relâché s'il n'avait pas fait appel à l'empereur. Quand il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on confia Paul et quelques autres prisonniers à la garde d'un officier de bataillon impérial nommé Julius. Nous nous sommes embarqués sur un navire dradamite qui devait se rendre dans les ports d'Asie mineure et nous sommes partis. Nous avions avec nous Aristarque de Thessalonique en Macédoine. Le lendemain, nous avons fait escale à Sidon. Julius, qui témoignait une grande bienveillance à Paul, lui a permis alors de se rendre chez ses amis pour recevoir leurs soins. Une fois reparti de là, nous avons longé la côte de Chypre pour nous protéger des vents contraires. Puis nous avons traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie et nous avons débarqué à Myra, en Lycie. Là, l'officier a trouvé un bateau d'Alexandrie qui était sur le point de partir pour l'Italie et nous a fait monter à son bord. Première étape dans ce long voyage. Nous ne savons pas combien de temps s'est écoulé entre la comparution de l'apôtre Paul devant Festus et Agrippa et la décision d'entreprendre le voyage vers Rome. Nous avons ici le récit de ce dernier voyage de Paul, de Césarée à Rome, un très long voyage. Récit détaillé, complet et récit très vivant d'un long voyage en bateau, un voyage difficile, émaillé d'épisodes d'une grande intensité dramatique, qui se terminera par un naufrage sur l'île de Malte. C'est une aventure remarquablement relatée par quelqu'un qui l'a vécu, Luc, l'ami et le collaborateur de l'apôtre Paul qui l'a accompagné dans ce périple, avec d'autres chrétiens prisonniers, et cela jusqu'à Rome, car ce récit est mis sous la forme du « nous ». Récit émaillé de nombreux termes techniques de la marine que Luc a appris au cours de ses voyages, ce qui fait qu'on peut faire un petit cours de navigation en lisant ce récit de l'évangéliste Luc. À l'époque, les voyages au long cours étaient rares. Les navires de commerce transportaient du fret, des marchandises de toutes sortes, de port en port, et ils embarquaient aussi des passagers. Pour un si long voyage, il fallait trouver successivement plusieurs bateaux. Une telle expédition pouvait durer des semaines, voire des mois. Paul, avec quelques autres prisonniers, est remis donc à la garde d'un centenier de la cohorte auguste nommé Julius. La première escale se fait à Sidon. Vous avez sous les yeux la carte. Nous sommes donc encore sur la côte est. Et nous sommes dans une ville phénicienne, célèbre à l'époque, qui était la rivale de Tyr. C'est l'occasion de souligner la bienveillance avec laquelle le centenier Julius traite l'apôtre Paul. C'est aussi une caractéristique de cet écrivain qui est Luc. Chaque fois qu'il le peut, il s'attache à relever les bonnes dispositions qui sont celles des officiers romains qui ont à s'occuper des chrétiens et des prisonniers qu'on leur confie. Cette disposition prouve aussi la confiance que l'apôtre Paul a inspirée, une confiance qui va se développer tout au long du voyage, que l'apôtre Paul a inspiré d'abord à cet officier romain et puis à tous ceux qui sont avec lui. Ainsi, Paul a pu visiter ses amis et recevoir leurs soins. Cette mention dit que ces soins étaient certainement nécessaires et utiles. Et Paul a reçu là les premiers encouragements de son voyage. Il en aura d'autres, en particulier à la fin de son voyage. La fin du récit nous dit que l'apôtre Paul, voyant les frères qui sont venus l'accueillir à partir de Rome, reprit courage. Il fut encouragé par la visite de ses frères et sœurs. On commence donc cette navigation et dès qu'on commence, il est fait mention des vents contraires. Et ces vents contraires vont être le problème qui ne va faire que s'accentuer tout au long de cette navigation. Ils partent donc de Sidon, ils montent vers la côte sud de l'Asie mineure et ils commencent à éprouver les difficultés de ces vents contraires. Ils naviguent donc d'abord à l'abri de l'île de Chypre. Ils doivent certainement faire des zigzags, ce qu'on appelle en navigation à la voile tirée de bord. Et puis, ils réussissent quand même à avancer et ils ont déjà fait un bon bout de route tout en longeant la côte sud de l'Asie mineure. Et ils arrivent jusqu'à Myra, c'est-à-dire une ville qui est tout près de la pointe sud-ouest de cette côte sud de l'Asie mineure. Et là, ils vont changer de navire. Ils vont quitter celui qu'ils ont eu jusqu'à présent pour un autre qui va les amener normalement jusqu'en Italie. Un vaisseau d'Alexandrie qui est en partance pour l'Italie. Combien a duré cette navigation ? Une des versions du récit parle de 15 jours. C'est possible. Nous lisons la suite et nous prenons notre lecture après ce que nous avons lu précédemment, c'est-à-dire acte 27 à partir du verset 7. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus à hauteur de Cnide. Mais le vent ne nous permettait plus d'avancer dans cette direction, c'est-à-dire que la route la plus directe aurait été d'aller à l'ouest, vers l'Italie, mais les vents ne l'ont pas permis. Nous sommes donc passés au sud de l'île de Crète, en doublant le cap Salmoné. Nous avons eu du mal à longer la côte et nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lazée. Beaucoup de temps s'étant écoulé, la navigation devenait dangereuse car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors Paul prend la parole et donne cet avertissement. « Mes amis, je considère que si nous continuons notre voyage, non seulement la cargaison et le bateau subiront de grands dommages, mais nous-mêmes, nous risquerons notre vie. » Mais l'officier romain se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner, si possible, Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest, et d'y passer l'hiver. Une légère brise du sud s'est enlevée. Ils voyaient déjà leur projet réalisé. Ils ont donc levé l'ancre et longé la côte de Crète au plus près. Mais peu de temps après, un vent violent comme un typhon, connu sous le nom d'Euraquilon, s'est mis à souffler des hauteurs de l'île. Le bateau était entraîné au large. Il ne pouvait pas résister au vent et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Nous avons passé ainsi au sud d'une petite île appelée Clauda. Comme elle nous abritait un peu du vent, nous en avons profité pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Nous sommes parvenus à grand-peine à le hisser à bord. Puis on a eu recours à des moyens de fortune. On a ceinturé tout le bateau de cordage. Comme on avait peur d'échouer sur les bancs de sable de la Sirte, on a jeté l'ancre flottante et l'on continuait ainsi à dériver. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de la cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni soleil ni étoile. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir de nous en sortir sains et saufs. Là, les difficultés sont devenues vraiment graves et le bateau est pris dans une grande tempête. Mais même jusque-là, le voyage a été bien plus long que prévu. Et il est fait mention du fait qu'on a passé l'époque où on naviguait. En effet, l'époque normale de navigation en ce temps-là s'arrêtait en septembre. Et de septembre à mars, on ne naviguait pas du tout. Là, on était déjà au temps de ce jeûne de l'automne, c'est-à-dire qu'on était probablement dans le mois d'octobre bien avancé. Alors à ce moment-là, pour la première fois dans ce voyage, Paul prend la parole. Il n'est pas marin professionnel, mais il a de l'expérience. Il avertit du danger de la navigation. En face de lui, il y a bien sûr le pilote du navire et le patron. Et le centenier a le choix entre écouter l'avis de l'apôtre Paul et écouter l'avis des marins professionnels. C'est assez logique qu'il écoute plutôt les professionnels de la navigation que l'apôtre Paul. Argument supplémentaire, le port dans lequel il se trouve n'est pas bon pour hiverner. Alors, toute chose étant dans ce sens, entre deux mots, il pense choisir celui qu'il croit être le moindre. On va essayer d'atteindre Phénix, port de Crète, pour y passer l'hiver, pour y hiverner. Et on voit comment ça se passe. La petite brise leur donne l'impression que ça va marcher, puis en réalité, le vent violent qui s'appelle le Raquilon leur tombe dessus. Et là, il n'y a plus moyen de lutter contre le vent et le bateau est emporté au large sans pouvoir lutter contre le vent. Et ils ne peuvent pas faire autre chose que de se laisser aller à la dérive. Ils entreprennent des manœuvres, ils rabattent les voiles, ils réussissent de justesse à amarrer le canot de sauvetage et ils ceinturent avec des cordes le bateau pour éviter qu'il n'éclate sous la violence de la tempête. Et puis il y a l'autre crainte, c'est que poussé au sud, il risque de tomber sur la Sirte, c'est la côte de la Libye actuelle, qu'on appelle à l'époque la Cyrénaïque. Et pour essayer d'éviter de tomber sur cette côte, on met ce qu'on appelle une ancre flottante. Une ancre flottante, c'est une pièce de bois qu'on met à l'arrière du bateau et qui a pour but de garder le bateau dans le fil du vent. Et puis on délaisse la cargaison, mais la tempête continue à être de plus en plus violente, ce qui fait qu'ils perdent tout espoir de s'en tirer vivants. Nous allons continuer la lecture du récit, au verset 21. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu de cette population du bateau, leur a dit : « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter. et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit, « Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et Dieu t'accorde la vie sauve, pour tous tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons cependant échouer quelque part sur une île. » L'intervention de Paul au milieu de la tempête. Une parole qui a une très grande importance, surtout dans leurs circonstances. Ils sont tous angoissés, ils sont tous malades, et on mentionne le fait qu'ils n'ont rien mangé depuis plusieurs jours. Et l'apôtre Paul va leur transmettre la révélation qu'il a reçue de Dieu. Il parle à tous ceux qui sont avec lui dans le bateau. Quelle grande foi! Quel exemple de force et de courage dominant les flots en fureur. Et l'on ne peut pas, en voyant comment Paul intervient debout dans la tempête, on ne peut pas évidemment ne pas penser à Jésus sur le lac de Tibériade, s'imposant au vent et au flot du lac qui avait tellement effrayé les disciples. Comme Jésus sur la barque battue par le vent sur le lac de Tibériade. Et quelle source d'encouragement, les paroles de l'apôtre Paul. Je vous exhorte à prendre courage. Bien sûr, il mentionne qu'ils auraient mieux fait de l'écouter, mais enfin, c'est pas là-dessus qu'il s'appesantit. Mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir transmettre le message de Dieu. Il leur transmet le message de Dieu. Et sur cette base, il les exhorte à prendre courage. Il apporte le témoignage de la parole de Dieu qu'il a reçue par son ange. Il rapporte les promesses de Dieu. Tous, vous aurez la vie sauve. Il n'y a que le bateau qui sera perdu. Courage, courage donc, mes amis. Il sera entendu, mais il devra s'y reprendre une autre fois. Et nous continuons donc la lecture à partir du verset 38. Du verset 27, pardon. C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique, quand vers le milieu de la nuit, les marins ont eu l'impression qu'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont découvert que le fond était à 37 mètres. Un peu plus loin, ils ont recommencé et trouvé le fond à 28 mètres. Comme ils avaient peur de voir le bateau s'écraser sur quelques récifs, ils ont jeté 4 ancres à la poupe en attendant avec impatience la venue du jour. Alors les marins qui voulaient s'enfuir du bateau ont commencé à mettre à la mer le bateau de sauvetage sous prétexte d'aller amarrer une ancre à l'avant. Les 4 ancres qu'on venait de mettre étaient à l'arrière. Mais Paul dit à l'officier romain et aux soldats, « Attention ! Si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages retenant la chaloupe et l'ont laissé tomber à la mer. En attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde à manger. « Voilà 14 jours, leur a-t-il dit, que vous êtes dans la tente sans rien prendre à manger. Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain et a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors tous les autres ont repris courage et se sont mis aussi à manger. Nous étions en tout 276 personnes à bord. Une fois rassasiés, ils ont continué à délester le bateau en jetant le reste des provisions à la mer. Le bateau dérive depuis 14 jours, depuis le départ de Beauport, en Crète, sur ce qu'ils appellent la mer Adriatique. Alors il faut savoir que ce qu'on appelait à l'époque la mer Adriatique, c'était la totalité de cet espace du golfe de Venise, comme aujourd'hui, mais toute la partie de la Méditerranée qui se trouve comprise entre la Grèce, l'Italie et l'Afrique. C'est tout ça, à l'époque, la mer Adriatique. C'est la mer Ionienne aussi, on l'appelle ainsi. Alors les marins qui pressentent l'approche d'une terre font des sondages. Ils voient qu'en s'approchant, il y a d'abord 37 mètres et puis 28, et ils pensent qu'ils vont risquer de tomber sur des récifs. Et alors ils mettent 4 ancres à l'arrière. Et puis les matelots, pas très courageux et pas très humains, qui pensent que ça va mal finir, font semblant d'aller jeter des ancres à l'avant, et en réalité ils veulent mettre le canot à l'eau pour s'enfuir. Et Paul intervient pour que ces matelots ne se sauvent pas. Et les soldats l'écoutent et ils laissent tomber le canot à la mer. Alors Paul, dans une dernière intervention, il sera intervenu 4 fois, encourage tout le monde à manger. Il fallait bien quand même apporter cette conviction avec la force qui était la sienne. C'est qu'en plus, il risque de défaillir et il risque d'avoir besoin de force pour la dernière étape qui consistera soit à nager, soit à s'accrocher à des restes du bateau pour aller jusqu'à la terre ferme. Ça ne signifie pas qu'il n'avait absolument rien mangé depuis 14 jours, mais il ne s'était absolument pas nourri pour avoir des forces renouvelées. On comprend très bien qu'avec les mouvements du bateau, le travail des uns, l'angoisse des autres, et le fait que beaucoup devaient avoir le mal de mer, on n'avait guère songé à manger jusque-là. Et on voit l'apôtre Paul, là encore, imiter Jésus. Comme un père de famille, il prend le pain, il rend grâce à Dieu devant tous, et donnant l'exemple, il commence à manger. Tous alors sont encouragés par ses paroles et par cet exemple de fermeté dans le danger. Ils prennent de la nourriture. À l'occasion de ce récit, Luc, l'auteur du récit, rapporte avec admiration le grand nombre de passagers sur lesquels Paul a exercé une telle influence. 276 personnes, ça fait du monde, hein. Le bateau devait être assez grand. Quelle remarquable progression dans la confiance que Paul a inspirée à tous ces hommes au fil de ces 4 interventions. On a fini par l'écouter comme s'il était le capitaine même du navire. Et on peut se dire, je pense avec raison, qu'après cet événement dramatique et infiniment saisissant, intense, l'impression que les paroles de Paul ont fait dans le cœur de tous ses passagers, de tous ses compagnons de voyage, a dû être une impression qui s'est prolongée largement au-delà de cet épisode du voyage et du naufrage. quelle manifestation de l'influence que peut exercer un grand caractère animé par l'Esprit de Dieu, et qui pourrait dire les impressions religieuses, les impressions pour la foi, produites dans les cœurs de ces gens pour leur salut éternel. Et nous faisons notre dernière lecture, nous aussi, pour la fin du récit. Lorsque le jour était venu, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. Ils entrevoyaient seulement, au fond d'une baie, une plage de sable. Ils ont donc décidé d'y faire échouer le bateau, si c'était possible. Les matelots ont coupé les câbles des ancres qu'ils ont abandonnés à la mer. En même temps, ils ont délié les courroies de deux grandes rames servant de gouvernail et hissé au vent la voile de Mycène au mât d'Artimon. Ils avaient mis le cap sur la plage quand le bateau a touché un banc de sable battu des deux côtés par la mer et il s'y est échoué. La proue, l'avant, s'est enfoncée dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière, la poupe, commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers de peur d'en voir un s'échapper à la nage. Mais l'officier désirait sauver Paul et il les a empêchés d'exécuter leur projet. Il a donné l'ordre à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre ferme. Les autres suivraient en s'agrippant à des planches ou à des épaves du bateau. C'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Une fois hors de danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Le jour venu, ils n'ont pas reconnu la terre, mais ce qu'ils ont vu a été pour eux une première grande source d'encouragement visible, à part les paroles de l'apôtre Paul, bien sûr. Une première raison d'espérer. Qu'est-ce qu'ils voient ? Une terre accueillante, non pas des rochers, non pas des falaises, mais un golfe avec une plage au fond. Une première raison d'espérer. Alors toutes les manœuvres techniques possibles sont mises en œuvre pour essayer de faire échouer le bateau sur la plage, lâcher les ancres et les attaches des gouvernails, déployer au vent la voile du mât d'Artimon et puis essayer de faire en sorte que le bateau soit poussé vers la plage et vers le sable. Et en fait, l'échouage se produit, mais un peu plus tôt, non pas sur la plage, mais sur un banc de sable. La proue s'enfonce dans le sable et la poupe se disloque par les coups de la mer. Et il y a encore ce dernier danger, le projet des soldats de tuer les prisonniers pour éviter qu'ils ne s'échappent et l'intervention du centenier Julius pour les épargner. Cet homme est bon, attaché à Paul et lui faisant confiance. Et c'est la dernière étape. Ceux qui savent nager se jettent à l'eau et ceux qui ne savent pas nager s'accrochent sur les débris du navire. Et tous parviennent à terre, sains et saufs. Voilà la conclusion de ce long périple. Vous voyez sur la carte, on est parti de Césarée et on arrive à Malte, au sud de la Sicile. On ne sait pas combien il y a de kilomètres, de toute façon, en navigation, on ne parle pas en kilomètres, on parle en milles. Mais ça a été un long voyage. Un long voyage plein de périls et plein de manifestations de la puissance de Dieu et de sa grâce. Le voyage n'est pas fini. Mais l'étape la plus longue et la plus périlleuse est terminée. le but du voyage va se réaliser. L'apôtre Paul pourra atteindre Rome pour y témoigner devant l'empereur. La parole de Dieu s'accomplit. Nous restons en conclusion quelques instants encore sur les moyens de ce voyage. La navigation, le bateau, l'ancre et la voile. Dans un instant, évidemment, nous chanterons le cantique qui parle de cela. L'ancre et la voile. On devrait dire dans l'ordre la voile et l'ancre. La voile pour avancer avec le vent et l'ancre pour arriver à s'arrêter quand c'est nécessaire. Il y a eu tellement de difficultés que finalement cette navigation dans sa plus grande partie s'est passée à la dérive sur une mer démontée. L'ancre et la voile. L'ancre a une référence biblique. Vous connaissez ce texte d'Hébreux qui parle de l'ancre de l'espérance. En fait, c'était une parole qui était connue, le fait de lier l'ancre à l'espérance. L'espérance pour saisir quelque chose de solide à quoi s'accrocher toute la vie. C'est le seul refuge, dit le texte des Hébreux. C'est le seul refuge que nous avons. Saisir cette ancre de l'espérance. Saisir l'espérance comme une ancre sûre et solide qui pénètre au-delà du voile. Le moyen de s'assurer d'être solidement établi sur quelque chose d'immuable, quelque chose qui ne change pas. Et nous sommes encouragés à consolider notre attache sur cette ancre-là, sur cette espérance qui s'empare de tout ce que Jésus a fait pour que nous soyons sauvés et que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Pour ce qui est de la voile, je n'ai pas, à part les récits qui en parlent, trouvé d'image pour faire un parallèle comme on le fait avec l'ancre. Mais enfin, on sait à quoi sert une voile. Alors je vais me risquer à faire une petite excursion sur le sujet de la voile pendant quelques instants, rassurez-vous. C'est un peu aussi l'image de quelqu'un qui a aimé la navigation à voile et qui l'aime toujours d'ailleurs. Le moyen de saisir la force du vent, c'est ça la voile, le moyen de saisir la force du vent, son souffle, pour avancer. Et autant nous avons besoin d'être solidement enracinés et fondés, accrochés à l'ancre, autant nous avons besoin, pour vivre, de marcher, d'avancer sur le chemin. Alors au lieu de marcher, on peut aussi faire une partie du chemin, comme l'apôtre Paul, en naviguant. Et alors, qu'est-ce qui nous fait naviguer ? C'est bien sûr le souffle de Dieu et le souffle de l'Esprit de Dieu. On sait tous cet autre texte dans la conversation entre Jésus et Nicodème. Lorsque Jésus lui parle de naître de nouveau, Nicodème lui dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et Jésus lui dit « Le vent souffle où il veut. » Là, on l'a vu dans notre histoire, il souffle vraiment où il veut. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Alors, je termine mon petit propos sur la voile et le souffle de Dieu à l'aide d'une image dans la navigation à voile actuelle, dans les voiliers d'aujourd'hui. Il y a deux cordages qui sont très importants. Il y en a un qui sert à monter les voiles le long du mât. On appelle ce cordage la drisse. Et puis il y a un autre cordage qui sert à régler les voiles, à les orienter, à les tendre, plus ou moins. Et, alors, peut-être qu'il y a des navigateurs parmi nous. Vous savez le nom de ce cordage ? L'écoute. Merci. L'écoute. Alors, je me suis dit, je ne peux pas rater cette occasion de faire ma propre petite image. Gardez en main l'écoute pour bien naviguer. Tendre la voile, la faire aller d'un côté, la faire aller de l'autre. L'écoute. L'écoute, bien sûr, de la parole de Dieu. Mais les deux éléments font référence à la parole de Dieu. La parole parlée, comme celle de l'apôtre Paul, la parole inspirée par l'Esprit, la parole qui nous fait vivre, qui nous fait avancer, qui nous fait aller ensemble de l'avant. C'est donc bien le moment pour nous de chanter ce beau cantique récent, mais qu'on a repris souvent parce qu'il dit beaucoup de choses. Alors je vous le relis parce qu'il est bon aussi de se rappeler son contenu. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux. Protégé par ta main, ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix. Ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi. Sans fin, je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon ancre, sois ma voile. Levons-nous pour chanter ce cantique.